VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Abidjan, 18h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Course à la Maison-Blanche aux États-Unis, le milliardaire républicain Donald Trump a présenté aujourd'hui à Washington les grandes lignes de sa future politique étrangère au cas où il accéderait à la présidence. Pour le milliardaire, cette politique peut se résumer en ces mots : les intérêts de l'Amérique d'abord. Une nouvelle vision qui devait permettre aux États-Unis d'éviter, selon lui, des erreurs coûteuses comme la guerre en Irak ou la politique de faiblesse de l'administration Obama. Donald Trump et la démocrate Hillary Clinton poursuivent aujourd'hui leur campagne pour l'investiture présidentielle dans leurs partis respectifs. Après avoir remporté des succès éclatants hier soir dans les primaires de plusieurs États de la côte Est. Le point avec Jean-Roger Bion qui commence par les résultats dans le camp républicain.
Le milliardaire Donald Trump a triomphé mardi dans les 5 primaires républicaines organisées sur la côte est américaine, tandis que Hillary Clinton a gagné 4 scrutins démocrates, distançant de façon décisive son rival Bernie Sanders. Donald Trump est arrivé premier dans le Maryland, la Pennsylvanie, le Delaware, Connecticut et Rhode Island. Ses marges de victoire sont formidables, dépassant 50 voire 60% des voix selon les États contre le sénateur du Texas, Ted Cruz, et le gouverneur de l'Ohio, John Kasich. Mais la bataille se déplace maintenant dans des États a priori moins favorables au milliardaire, à commencer par l'Indiana dans une semaine. Pour l'homme d'affaires, l'important n'est pas seulement de gagner les primaires restantes, il lui faudra s'imposer avec un très fort pourcentage dans les 10 derniers scrutins afin d'atteindre les 1237 délégués et de ravir l'investiture de façon incontestable avant la convention de Cleveland au mois de juillet.
Et l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton dans le camp démocrate, quels ont été ses résultats hier soir, Jean-Roger?
Hillary Clinton, quant à elle, a empoché les grands États du Maryland et de la Pennsylvanie, ainsi que le Connecticut et le Delaware. Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, n'a gagné que dans le petit État de Rhode Island. Avec ses 4 victoires mardi, Hillary Clinton a engrangé une avance quasi insurmontable sur Bernie Sanders, qui aurait besoin de gagner environ 85 % des délégués restants pour la surpasser. S'exprimant à Philadelphie, en Pennsylvanie, où aura lieu la convention démocrate en juillet, Hillary Clinton a affiché la confiance des vainqueurs, entrant en scène au son de « Eye of the Tiger », la chanson du film Rocky, et tendant la main aux électeurs de Bernie Sanders. « Que vous souteniez le sénateur Sanders ou moi, ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous divise », a-t-elle ajouté. Et elle a attaqué les Républicains et Donald Trump pour leur position anti-musulman, leur déni du changement climatique ou leur contestation du droit à l'avortement.
Merci Jean-Roger Bion. Afrique maintenant, garde nationale du Mali, 26 armes, des pistolets mitrailleurs ont été volées dans des dépôts d'armes. En plus de ce vol, une vingtaine d'autres armes de poing ont disparu au niveau du commissariat des armées à Bamako, ce qui fait un total d'une cinquantaine d'armes dans la nature. L'inspection des armées et la police militaire mènent les enquêtes. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Depuis l'annonce de la réintégration des ex-combattants dans l'armée, on assiste à toutes sortes de gymnastiques, du côté des femmes, de même que des groupes armés. Chez les militaires maliens, on voit qu'il y a des vols d'armes. C'est ainsi qu'au niveau de la garde nationale du Mali, 26 pistolets mitrailleurs, communément appelés des PM, ont disparu des dépôts d'armes. Au commissariat des armées, c'est environ 25 armes qui sont introuvables. Au même moment que ces vols s'opèrent au niveau de l'armée malienne, des chefs rebelles sont en train de payer des armes pour donner à des gens qui ne sont pas des combattants. Tout cela parce qu'ils ont fourni des listes de combattants fictifs dans le cadre de la réintégration d'ex-combattants dans l'armée malienne. Les rebelles achètent des armes pour deux raisons. Primo, armer les remplaçants des éléments morts ou qui sont retournés dans leur pays respectif. Secondo, fournir des armes aux nouvelles recrues qui ont acheté des cartes de combattants dans les régions nord. D'autant plus que le cantonnement ou la réintégration s'est fait sur la présentation d'armes. Suite à ces vols d'armes, la hiérarchie militaire avait suspendu le chef d'état-major de la garde nationale, de même que le commandant de ce groupement. Nous apprenons que ces décisions ne sont pas appliquées, car le chef d'état-major de la garde nationale continue de travailler tranquillement dans son bureau. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ne sont pas affectées par le mandat international lancé par la justice burkinabé contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. C'est ce qu'a assuré aujourd'hui le chef de l'État burkinabé, Rochmar Christian Kabore, à la télévision nationale. Rappelons que la justice burkinabé a émis ce mandat début janvier pour l'implication présumée du président de l'Assemblée nationale ivoirienne dans le coup d'État manqué contre le gouvernement de transition burkinabé en septembre 2015. Des accusations démenties catégoriquement par l'intéressé.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise au Burundi, la médiation tanzanienne compte organiser du 2 au 6 mai un dialogue inclusif entre les protagonistes de la crise à Arusha en Tanzanie, ville qui a abrité il y a presque 16 ans les négociations qui ont mis fin à la guerre civile et ont fait 300 000 morts au Burundi entre 1993 et 2003. Le gouvernement burundais campe sur ses positions et refuse de s'asseoir avec les personnes qu'il qualifie de terroristes. Mais pour l'opposition, le dialogue sans exclusion reste le seul moyen de mettre fin à la crise en cours. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Des balais diplomatiques se sont succédés l'année dernière et le début de cette année dans la capitale Bujumbura après la répression des manifestants contre le troisième mandat contesté du président Pierre Nkurunziza. Tour à tour, les délégations de la communauté est-africaine, de l'Union africaine, de l'Union européenne et des Nations unies se sont rendues à Bujumbura pour appeler les autorités à trouver une issue à la crise à travers un dialogue inclusif. Mais la réponse a toujours été la même. Le gouvernement burundais ne discutera pas avec les criminels, même si l'invitation leur est arrivée tard. Tardivement mardi soir. Le porte-parole du président burundais ne confirme pas que le gouvernement sera à Arusha dans une semaine. Willy Nyamitwe.
L'invitation nous est parvenue. C'est difficile à mon niveau et à l'heure qu'il est de vous confirmer quelle sera la réponse du gouvernement. Parce que le gouvernement doit d'abord analyser cette invitation, trouver aussi une explication au fait qu'il soit le dernier à être convié à cette session inaugurale du dialogue inter-burundais à l'extérieur. Ce n'est pas le gouvernement qui exclut certaines personnes, c'est la loi, c'est le droit. Ceux qui ont pris la voie de la violence sont exclus par les lois burundaises, mais aussi sont exclus par les différentes résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Et pour l'opposition burundaise réunie au sein de la plateforme Sénared, qui a dernièrement changé sa présidence et qui lutte pour le respect des accords de paix et de réconciliation d'Arusha, tôt ou tard, le gouvernement burundais devra s'asseoir avec les opposants. Charles Nditije, président du parti UPRONA, UNEL, non reconnu par les autorités de Bujumbura.
Et s'il fallait parler de putschistes, je crois que le premier putschiste, c'est M. Nkurunziza qui a fait un putsch constitutionnel en briguant le troisième mandat et contre la constitution, contre la, à l'accord d'Arusha. La voie qui sauve les uns et les autres, qui sauvegarde la paix et la sécurité, c'est la voie du dialogue, la voie des négociations. Qu'il le veuille ou non, et tôt ou tard, il finit par comprendre qu'il n'aura d'autre choix que d'accepter de négocier. Et dans pareil cas, on ne négocie pas avec ses amis, on négocie et précisément avec ceux-là et avec vous êtes en conflit pour des raisons politique.
La crise au Burundi s'aggrave de plus en plus ces derniers temps avec l'assassinat en moins de 36 heures de trois militaires haut gradés. L'Union européenne demande urgemment la reprise d'un dialogue inclusif avec toutes les parties concernées par la crise burundaise qui a fait, selon la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme, plus de 700 morts et plus de 4300 prisonniers, sans oublier les centaines de millions de réfugiés éparpillés sur tous les quatre continents. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
L'enquête sur les attentats de Paris et de Bruxelles maintenant, Salah Abdeslam, suspect clé des attentats de Paris de novembre 2015, a été remis aujourd'hui aux autorités judiciaires françaises. Arrêté le 18 mars à Molenbeek à Bruxelles, il sera incarcéré dans un quartier d'isolement dans une prison de la région parisienne. Eric Manirakiza.
C'est le seul survivant des commandos parisiens du 13 novembre, responsable des attentats les plus meurtriers en France. Mais à ce jour, le rôle exact que Salah Abdeslam devait jouer dans ces attaques reste un mystère. Après son arrestation le 18 mars à Molenbeek, quartier de Bruxelles où il a grandi, ce petit caïd devenu djihadiste a minimisé son rôle, arguant qu'il voulait simplement se faire exploser au Stade de France, puis a abandonné son projet avant de se murer dans le silence, a déclaré le procureur François Molins. Salah Abdeslam a été donc transféré ce mercredi en France sous haute protection et sera incarcéré dans un quartier d'isolement dans une prison à une trentaine de kilomètres au sud de Paris. Selon le ministre français de la Justice, Jean-Jacques Uvoas, une équipe de surveillance dédiée va s'occuper de lui et les composés de surveillants aguerris formé à la détention des personnes réputées dangereuses. Devenu ennemi public numéro 1 en France, Salah Abdeslam sera défendu par l'avocat Franck Berton, qui s'est déjà illustré dans plusieurs affaires judiciaires majeures en France.
Voilà, merci pour votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.